bougera pas. On veut garder notre retraite.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Et elle ne lâchera rien. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est votre nouveau rendez-vous. Soirée énervée, toujours en deux temps et à deux vitesses. On est podcastable dès 18h en avant-première avant de passer à l'antenne. 22h minuit, comme tout le monde. Première partie, c'est toujours l'actualité et la musique en live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. Alors ce soir, l'actu, c'est toujours les grèves, encore la grève. SNCF, RATP, Aéroport de Paris, Éducation nationale, Université, Radio France, oui, nous-mêmes, hôpitaux, police, pompiers, avocats, les entreprises de transport privé, qui dit mieux, avec des revendications quelquefois différentes, mais qui se cristallisent sur la réforme annoncée des retraites. Moins d'une semaine après la très forte mobilisation de jeudi dernier et à la veille de la journée d'action de demain, retour sur un mouvement social qui aujourd'hui ne flé... J'ai perdu... Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de la radio que j'ai même perdu mes mots. C'est vrai, ça fait presque deux semaines qu'on n'a pas parlé dans le micro. Christophe Boursier, vous aviez un titre ?
Bien sûr que j'ai des titres, j'ai plein de titres. D'abord, moi j'ai un titre que j'aime beaucoup, c'est « Grève vers la coagulation des colères ». Je trouve que c'est plus intéressant que la convergence, la coagulation. Ensuite, « Grève, c'est parti pour durer », point d'interrogation. Ou alors, là c'est plus original, « Retraite, cours camarade, le vieux monde est devant toi ».
Ah oui, c'est ça, c'était cette histoire de
cours camarade. Et puis j'ai encore mieux.
Ah non.
Et puis j'ai encore mieux, enfin encore plus complexe. Avec la grève abandonnée, plus de coquillages, ni de crustacés.
D'accord, on a bien compris. Allez, mobilisation aussi sur le plan musical ce soir, Marion Guilbeault. Qui en live ?
Avec Sally, elle est très très loin d'être à l'âge de la retraite. Elle commence tout juste sa carrière de chanteuse, de rappeuse. Elle a 20 ans. Elle sera en live avec ses musiciens juste à la fin de l'émission.
Et puis, autre temps, autre parole, ce sera le NRV la suite. Cette semaine, France Inter, plus de radioscopie. Et oui, ce soir, au micro de Jacques Chancel, Jean-Paul Sartre. Qu'aurait-il pensé de cette grève ? Allez, le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Avant de vous lancer dans un éditorial de coagulation, Christophe Boursier, je vous présente nos invités. Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico, bonsoir.
Bonsoir.
Émilie Zapalski, conseil en communication, fondatrice de Émilie Conseil, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Enfin, Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Échos, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai dit enfin, et pas du tout, il en reste encore un. Benjamin Hamard, professeur d'histoire, responsable de la CGT du Val-de-Marne. Vous signez Les combats du clair-obscur aux éditions Un point, c'est tout. Ça vous va ?
Tiens, présentation. Très bien.
Eh bien, c'est parfait. On part avec l'éditorial, Christophe ?
Ah oui, bien sûr, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, Laurent, mais il y a au moins un point commun entre la lutte syndicale actuelle et le mouvement des Gilets jaunes il y a un an. Dans les deux cas, personne ne s'en prend au patron. L'objet de toutes les colères, de toutes les rancœurs, c'est Emmanuel Macron qui se trouve dans le viseur des grévistes. Pourquoi ? Parce que depuis son élection, il n'a semblé avoir qu'un seul objectif, faire des économies, opérer des restrictions budgétaires à la façon d'un patron, justement, qui tente par tous les moyens de présenter au terme de son mandat peut-être un bilan positif. Au début, tout le monde ou presque lui a fait confiance. Il a même bénéficié d'un état de grâce anormalement long. Alors aujourd'hui, la confiance a fait pchit, Laurent. Lorsque les ministres se démènent pour expliquer le caractère égalitaire du projet de réforme des retraites, chacun se dit qu'il sera perdant puisque l'objet de la réforme, c'est justement de faire des économies. C'est pourquoi les défenseurs de la retraite telle qu'elle existe aujourd'hui, passe à l'offensive et demande le retrait qui permettra d'accéder à la retraite en contraignant le gouvernement à opérer une retraite. Mais est-ce tout ou rien ? Le projet de réforme est-il à ce point nul qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du bain, si je puis dire, Laurent ? Alors, Benjamin Hamard, la CGT veut aller jusqu'au bout, dit-elle, mais ne risque-t-elle pas de plonger la France dans le chaos ?
Alors,
question
ça...
brutale, certes.
Non, brutale et en même temps c'est un marronnier, c'est-à-dire que je n'y échappe nulle part.
Ah.
Vous savez, il y a une phrase de Prévert que moi j'aime beaucoup qui dit « Les éboueurs sont en grève et les orduriers sont en colère ». La grève, on va se dire les choses tranquillement, c'est fait pour paralyser, bloquer l'économie. C'est un rapport de force. Alors ça coûte, hein. Ça, moi quand je fais grève, ça me coûte au portefeuille, ça me coûte pour ma tension artérielle. La lutte, c'est compliqué, d'ailleurs les Gilets jaunes pourraient en parler. Nous, à la CGT, on pratique le syndicalisme. La négociation, vous savez, la CGT, elle signe 80% des accords dans les entreprises. Mais moi, ce qu'on m'a appris à la CGT, quand j'étais un jeune CGTiste, c'est qu'on croit à la négociation fondée sur le rapport de force. Voilà. Contrairement à ce que vous avez dit, si les Gilets jaunes ont, effectivement, je suis d'accord, longtemps épargné le patronat, nous, on le fait pas. Un de mes slogans préférés, lorsque je suis au micro de la camionnette de la CGT du Val-de-Marne, c'est de dire, ce n'est pas au patronat de faire la loi. Et ce que l'on reproche à Emmanuel Macron, c'est de confondre la souveraineté nationale et populaire avec la souveraineté patronale. Voilà. Il a dit, depuis qu'il est président, on l'a souvent mis devant cette incapacité qu'il avait de mettre le patronat devant ses responsabilités. Et dans ce cas-là, les députés macronistes nous disaient, mais écoutez, pas du tout, on va faire une grande loi sur la taxation des contrats courts. Et ils avaient ils prenaient des accents comme ça, lyriques sur cette réforme. Et la montagne a accouché d'une souris. On a eu effectivement 7 secteurs seulement consacrés à la taxation des contrats courts, dont certains d'ailleurs qui utilisent fort peu de contrats courts. Et par contre, tout le reste, c'est des sacrifices, des larmes demandées en permanence aux travailleurs. Et cette réforme, là où je pense qu'Emmanuel Macron va se casser les dents, c'est qu'en réalité, là, pour la première fois, il ne peut pas diviser pour mieux régner. Il essaye de le faire, mais c'est compliqué, parce que cette réforme scélérate des retraites, elle concerne tout le monde, et pas simplement les régimes spéciaux, comme il voudrait le faire
croire. Dominique, vous êtes d'accord avec cette analyse? Notamment sur la... Voilà, j'imagine. Notamment sur la fin, sur le fait que ça ne concerne pas que les régimes spéciaux, c'est bizarre.
Bah, je crois qu'il est normal que la CGT et d'autres syndicats veuillent absolument montrer que c'est l'ensemble des... Français qui sont concernés par cette réforme, en réalité, c'est quand même les régimes spéciaux qui sont, non pas dans le collimateur, mais qui sont atypiques par rapport à l'ensemble des systèmes de retraite en France. L'âge de départ en retraite, les conditions de départ, le taux de remplacement, tout est un petit peu atypique. Alors, évidemment, vous savez, quand on regarde les grèves passées, que ce soit 1995, que ce soit 2003, 2008, 2010, et la réforme de 2013, à chaque fois... Quand même, les régimes spéciaux sont ceux qui, à la fin, s'en sont tirés. Donc la question que se doivent se poser un certain nombre de salariés, c'est, dans les manifestations, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre d'idiots utiles qui, au fond, ne servent à la fin qu'à conforter les régimes spéciaux. Mais ça n'épargne pas du tout la responsabilité du gouvernement, ce que je viens de dire. C'est-à-dire le gouvernement a fait des erreurs de communication absolument majeures. Alors on y reviendra peut-être dans la discussion. Mais c'est vrai que... ça fait 815 jours aujourd'hui que Jean-Paul Delevoye a été nommé haut-commissaire. Rarement on a vu une réforme durer autant de temps. Je pense que même pour cette réforme des retraites, c'est quand même pas le débarquement sur Mars non plus. C'est-à-dire que ça vaut pas forcément 2 ans, 2 mois et presque 30 jours consacrés au sujet. Le gouvernement se débrouille très très mal sur la communication. Il suffit de regarder du côté des enseignants par exemple. Jean-Paul Delevoye a mis au mois de juillet 12 slides malheureux pour donner des cas concrets, et en face vous avez des syndicats qui mettent en place des simulateurs. On peut discuter à l'infini de la pertinence des simulateurs et de l'exactitude, mais c'est vrai qu'il y a une communication qui est 4.0 du côté des syndicats et du côté du gouvernement. Pour l'instant, c'est un tout petit peu les années 90 et 2000.
Émilie Zapalski, vous pensez que la mobilisation était historique jeudi dernier?
Je pense que la mobilisation, et notamment de la part des syndicats, qui avaient du mal à rassembler jusqu'à maintenant, c'est un moment marquant, oui, parce que quand on commence à parler d'800 000 personnes dans la rue, ça commence à faire beaucoup, il y a eu beaucoup de blocages dans les transports, et je pense que le gouvernement a été peut-être un peu surpris, et qu'ils attendaient peut-être un autre niveau de manifestation, et c'est pour ça qu'ils attendaient, finalement, eux, c'était le signal qu'ils attendaient, évaluer à peu près comment était le mouvement populaire, la mobilisation, pour savoir quelles concessions ou pas ils feraient à ce moment-là.
Mais on est dans un étiage qui est celui de la plupart des mouvements sociaux contre les retraites. C'était déjà comme ça contre
oui,
Chirac,
mais simplement,
c'était comme ça sous Fillon.
Simplement, Benjamin Amar me dira si je dis des bêtises, mais les syndicats, jusqu'à maintenant, les Gilets jaunes ont pris la relève un petit peu des syndicats depuis 2018. Ils ont un peu faibli. Et là, pour la première fois, les syndicats qui étaient un peu hors-jeu ces derniers temps, y compris de la part du gouvernement et qui les a mis hors-jeu, avaient du mal à rassembler dans la rue. Donc là, c'est un signal fort. Après, la question, c'est est-ce qu'ils peuvent capitaliser sur cette réussite en dehors de cette thématique des retraites qui concerne beaucoup de salariés, enfin qui concerne tout le monde? Est-ce qu'ils peuvent tenir là-dessus? Ça, c'est une autre question. Mais je reviendrai sur la partie communication. Je pense qu'il n'y a pas que cette question de simulateur et d'erreur de communication. C'est qu'il y a eu beaucoup d'objectifs dans cette réforme. Et d'ailleurs, on voit bien que le gouvernement est en train d'en abandonner certains, et notamment celui de l'équilibre financier. Alors après, on verra mercredi, parce qu'on commence à réentendre un petit peu la petite musique de l'âge pivot, là, depuis hier soir, donc depuis la réunion à Matignon et à l'Élysée, les 64 ans ont l'air de revenir un petit peu sur le tapis. Mais en tout cas, on voit que cette réforme a eu beaucoup d'objectifs. On parle de paramétrique, donc de changer les paramètres. On parle d'universalité. Et c'est peut-être trop pour les Français pour faire tout ça en même temps et d'accepter tout ça en même temps.
Mais alors, il y a une question, moi, que je me pose, Jean-Sébastien Ferjou. Comment expliquez-vous que la CGT, que Sud, que FO soient dans la lutte? On sait bien que c'est des syndicats combatifs. Comment expliquez-vous que des syndicats modérés, comme par exemple l'UNSA, soient aujourd'hui aussi présents dans la lutte, notamment chez les cheminots?
Déjà parce que les centrales ne contrôlent pas nécessairement ce qui se passe sur le terrain, et c'est le cas pour les syndicats modérés. Et après, parce que précisément, on est dans la confusion absolue. Il y a deux réformes, en fait, des retraites. Il y a une réforme paramétrique. Est-ce qu'il faut cotiser plus longtemps? Est-ce qu'il faut baisser le montant des pensions? Est-ce que, enfin, voilà, pour assurer l'équilibre du régime des retraites. Et après, il y a une réforme qui est visant à la justice sociale. Le problème est la faute politique du gouvernement. Je pense qu'elle n'est même pas celle de la communication, parce que je suis assez d'accord avec ce que disait Dominique Seuss, que vient de dire Émilie. Il y a trop d'objectifs en même temps et plus personne ne comprend où on en est. On peut pas quand même, enfin, après plus de 2 ans de concertation, qu'est-ce qui pourrait être si difficile que ça qu'il n'y ait pas un projet qui soit présentable à l'heure actuelle. Mais la faute politique, elle est que nous vivons dans une crise de défiance. C'est-à-dire que quand vous voyez dans des émissions Gérald Darmanin ou Sibeth Ndiaye, par exemple, la semaine dernière, qui disent, mais nous prendrons des engagements, il y aura un pacte, la rémunération des enseignants sera revalorisée, ce qui compensera l'impact de la réforme des retraites. Moi, je n'ai pas de raison de douter de leur sincérité. En revanche, on voit que les Français, de toute façon, ne croient plus. Et c'est pas uniquement Emmanuel Macron qui est en cause, c'est de toute façon l'ampleur de la crise de défiance qui est partout dans les démocraties occidentales. Donc je ne comprends pas bien la logique qu'il y a à s'engager dans ce genre de réforme-là, si ce n'est qu'on voit qu'il y a deux calculs qui se font face. Il y a le calcul de la CGT qui, quand même, est dans une espèce de volonté, je ne sais pas si le mot revanche est qualifié, mais en tout cas de reprendre la main après le mouvement des Gilets jaunes qui leur avait totalement échappé, et puis le gouvernement qui se dit, nous, on a un électorat qui est réformateur et donc il faut absolument qu'à minima on fasse au moins semblant de l'être. La une du JDD hier, qui va gagner? Ben, j'ai envie de vous dire, quand c'est posé comme ça, de toute façon la question, ça veut dire que c'est tout le monde est perdant, parce que quand ça n'est pas les Français qui gagnent, ça veut dire qu'il n'y a pas d'issue politique.
Benjamin Hamar, est-ce que ça veut dire qu'aucune réforme des retraites n'est possible en France?
Alors certainement pas. D'ailleurs, dans les fake news abondamment véhiculées par la Macronie, il y en avait une comme quoi on faisait la politique de la chaise vide. Philippe Martinez a avec force rappelé qu'on avait rencontré le gouvernement 22 fois et que donc il fallait prévenir Sibeth Ndiaye par des SMS que on y était souvent et là-bas
pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, je crois.
Alors, pas en ce moment. Cet après-midi.
Non, mais pas cet après-midi. D'abord, en l'occurrence, Jean-Paul Delevoye, je crois précisément, a été vu plus d'une quinzaine. Alors, le nombre de rencontres, c'est 22. Mais alors, Jean-Paul Delevoye, on a débattu avec lui dans un nombre incalculable d'échéances. Il est même venu à la fête de l'UMA.
Alors, pourquoi pas aujourd'hui?
Alors là, après, moi, je suis pas dans les arcanes de la négociation des retraites, donc je ne peux pas vous dire. Ce qui est certain, c'est que on a eu largement la possibilité de soumettre au gouvernement nos pistes. Nos solutions, parce que contrairement à ce que certains disent, nous ne sommes pas le syndicat aux mains vides. Et à chaque fois qu'il y a eu des mobilisations, nous venons avec des pages de propositions. Là, notamment, ce que nous disons au gouvernement, c'est mais attendez, si vous voulez une solution pour les retraites, c'est en amont que ça se fait. Pourquoi vous estimez que la question des salaires est tabou et sacrilège? Nous, on a calculé que 1% d'augmentation des salaires, c'est à peu près 4 milliards dans les caisses de la sécurité sociale. 5% d'augmentation des salaires, c'est 18 milliards dans les caisses de la sécurité sociale. Quelqu'un qui gagne 1 500 €, ça, c'est une augmentation de 75 €. L'égalité salariale femmes-hommes, c'est une sacrée piste, ça. Donc, autrement dit, on est bien sûr là logique contre logique. Mais
si vous raisonnez, c'est toujours la même chose. Vous raisonnez en statique, comme si ça n'avait pas d'impact sur la vie. Mais les gens adaptent leur comportement. C'est-à-dire que si vous augmentez les salaires de 10%, ça aura un impact sur la structure de l'activité économique française.
Je crois qu'autour du plateau,
vos calculs ne marchent pas.
Je ne suis pas tellement majoritaire numériquement parlant. Et moi, vous avez vu, j'ai coupé la parole à personne. Donc j'aimerais terminer tranquillement. Vous êtes bien sûr pas sur cette logique. Vous avez le droit. Mais nous, on est sur celle-là et on bougera pas. Je vais vous dire, il y a une étude de la DERES.
DERES, il faut rappeler.
C'est l'outil statistique qui dépend du Premier ministre. Donc c'est quelque chose d'officiel. L'enquête sur le ressenti des Français qui disent que il faut à peu près 1 760 € par personne pour vivre décemment en France. Voilà. Alors qu'on sait qu'on a 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté à moins de 1 000 €. Donc là, il y a la question du partage de la richesse, elle est cruciale et elle apparaît aussi sur la question des retraites. Quand je disais tout à l'heure que ça n'était pas que les régimes spéciaux, je vais vous dire, c'est simple. Cet argument-là, dans la guerre de communication qu'évoquait Dominique Seux et que nous sommes en train de remporter à plate couture, il y a un argument qui marche très très bien. Quand on dit aux Français, salariés du privé ou salariés du public, vous avez, dans le cas des salariés du privé, votre calcul de retraite qui se fait sur les 25 meilleures années. Ben, quand vous prenez avec la réforme Macron toute la carrière, eh ben, les pires années, elles sont intégrées dans le calcul. Il n'y a pas besoin d'être Einstein ou prix Nobel d'économie pour comprendre cela. Et donc, nous, on a prouvé que cette réforme, c'était une réforme scélérate et c'est une réforme à deux étages. Effectivement, il y a la réforme paramétrique et la réforme systémique. Les Français n'y comprennent rien. Mais justement, bien sûr, derrière nous, On a énormément bataillé sur tous les terrains. Et si aujourd'hui, selon le sondage interactif Harris, on a 7 Français sur 10 qui à la fois soutiennent le mouvement de grève et 7 Français sur 10 qui sont hostiles à la réforme par points d'Emmanuel Macron, c'est parce que ce travail, on l'a bien fait. Et vous savez quoi? On va continuer à le faire.
Dominique Seux.
Revenons à la démographie. C'est toujours un peu la même chose depuis une trentaine d'années maintenant. C'est-à-dire que, heureusement, nous vivons plus longtemps, y compris, mais pas tout le monde, en bonne santé.
Et à quel prix?
À quel prix? Voilà, mais la plupart des pays ont des âges de retraite plus avancés. Il y a une question d'équilibre général. La question, c'est de savoir quelle est la meilleure attitude, dans le débat social. Est-ce que c'est de dire non à toutes les réformes, quelles qu'elles soient, qui se présentent, et on en est à la 6e depuis, ou 5e depuis 1993, ou à l'inverse de se dire... Je négocie des compromis avec les pouvoirs publics et j'essaye de faire changer la copie. Ce qui s'est fait, il me semble que quand on regarde la vie des Français, la réforme la plus efficace du point de vue des Français, ça a été ce qui s'est négocié avec la CFDT en 2003 sur les carrières longues. C'est-à-dire, on peut dire non, 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 mais à la fin, aujourd'hui, s'il n'y avait eu aucune réforme des retraites depuis 25 ans maintenant, on en serait à 19% de PIB consacré aux retraites. On est aujourd'hui à 14%. Bon, ce serait infinançable, ce serait 4 fois l'effort, ou 3 fois et demi l'effort pour l'éducation, ça n'aurait aucun sens. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il vaut mieux se mettre autour d'une table, négocier, y compris des choses qui sont difficiles à la fois pour le patronat et le gouvernement. Les carrières longues, vous savez, c'est un dispositif qui a concerné jusqu'à la moitié d'une génération. C'est-à-dire que beaucoup de gens en ont profité. Et ça, c'est du concret. Et donc, quelle est la meilleure tactique, la meilleure stratégie quand on est partenaire social? Est-ce que c'est la négociation ou c'est le niet?
Sanglant sur
Super Bravo, c'est le nom du groupe. Le titre de la chanson, c'est Il n'y a pas foule, sauf dans les manifs, sur les routes, les trottoirs et dans les rares bus et métros qui circulent aujourd'hui. Programmation, il a rien compris, hein, Jean-Baptiste Audibert.
Rendez-vous.
Qu'est-ce qui m'inquiète ? Bah, que je puisse finir mon existence tranquillement.
La retraite à 64 ans, on n'en veut pas !
Cheminots, profs, postiers, pompiers, kinés, aides à domicile, avocats, salariés d'EDF, soignants.
Le nouveau rendez-vous.
Main dans la main contre la réforme des retraites.
Tout le monde y perdra dans le nouveau système parce qu'il sera moins sécurisé, moins lisible, beaucoup plus incertain.
Je suis persuadé qu'avec les organisations syndicales, nous trouverons le bon point d'équilibre.
Laurent Goumard, sur France Inter.
Manifestation, réforme des retraites annoncée, rien ne va plus, on en parle ce soir dans le Énervé, à la veille de la mobilisation générale, ce sera pour demain, avec nos invités, Dominique Seux, le directeur délégué de la rédaction des Échos, Émilie Zapalski, fondatrice de Émilie Conseil, donc conseillère en communication, Benjamin Hamard, qui est responsable de la CGT du Val-de-Marne et qui vient de signer Les combats du clair-obscur aux éditions Un Point, c'est tout, et Jean-Sébastien Ferjou, le directeur d'Atlantico. Vous vouliez revenir sur quelque chose qui a été dit dans la première partie, mais quoi exactement? Sur quel point?
Benjamin Hamard nous disait, bah oui, forcément, bah, forcément. Plus de continuité avec celle de Dominique Seux en ce qui me concerne. mais Benjamin Hamard disait tout à l'heure que les syndicats faisaient du très bon boulot pour convaincre les Français que la réforme était injuste. Et j'ai envie de lui dire, non, vous jouez sur du velours. C'est-à-dire que c'est Emmanuel Macron qui, de toute façon, par son style, a fait en sorte que personne ne peut croire quand il dit qu'il est pour une réforme de justice sociale. C'est probablement injuste d'ailleurs, parce que moi il me semble que la réforme, elle n'est pas injuste. Mais bref, Emmanuel Macron lui-même, campant sur la posture de « je suis un justicier social », ça ne peut pas passer auprès des Français. C'est pour ça que je vous disais, à la limite, on peut discuter à l'infini des mérites, des inconvénients de cette réforme-là, de est-ce qu'il faut la paramétrer un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Il y a cette impossibilité-là, qui en plus s'inscrit dans une crise politique beaucoup plus large, qui dépasse pour le coup la personne d'Emmanuel Macron. Mais bref, la faute originale du quinquennat, la baisse des APL, en même temps que la suppression de l'ISF, quoi qu'on en pense sur le fond, politiquement, dans une époque qui est obsédée par la montée des inégalités. Parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie, c'est qu'en 2008, il y a eu une énorme crise et qu'on fêtait il y a peu de temps les 30 ans de la chute du mur de Berlin, mais en 1989, le système de croyance s'est effondré en même temps que le système concret, matériel, qui portait ce système de croyance. En 2008, le capitalisme financier mondialisé, etc., c'est comme si c'était effondré dans les têtes, mais que tout avait continué pareil dans la réalité. Et ce doute-là qui existe pas seulement chez Benjamin Hamard ou pas seulement chez les gens de la CGT, qui existe au sens large chez les Français, qui en plus se cumule avec des inquiétudes sur une espèce d'effondrement civilisationnel avec des Greta Thunberg et autres. Comment Emmanuel Macron ou son gouvernement ou sa majorité peuvent-ils manquer à ce point de recul sur eux-mêmes pour ne pas comprendre qu'ils ne sont pas crédibles sur la posture du justicier social?
Alors, je voudrais revenir juste sur cette réforme et notamment sur la confirmation du système à points, quelque chose qui avait été déjà, bien sûr, évalué par notamment François Fillon lors de la campagne en 2016. Et voici ce qu'il en disait.
Il y a trop d'hommes politiques qui jouent avec l'affaire des retraites et qui font miroiter des réformes formidables. Alors, par exemple, ce qu'on appelle les retraites par points. Le système de retraite par points, j'y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions.
Dominique Seux, sur cette évaluation de François Fillon, sur le cynisme en fait politique qu'il y a derrière le système à points.
On laisse à François Fillon son cynisme, mais quand on regarde, vous savez, les retraites par points, ça n'est pas quelque chose de complètement nouveau en France.
Un tiers des retraites
des employés et des ouvriers sont à la GIRC, c'est-à-dire et ARCO, sont des régimes complémentaires. Voilà, c'est par points, et ça monte pour les salaires, les rémunérations les plus élevées, aux deux tiers, voire plus. Donc c'est quelque chose, la valeur du point n'a jamais baissé. Après, la valeur du rendement du point, c'est autre chose, on pourrait rentrer dans la technique. Mais si François Fillon dit un régime de retraite doit être équilibré à un moment ou à un autre, soit on travaille plus, soit on augmente les cotisations, soit on baisse les pensions, ça me paraît un truisme. C'est-à-dire c'est pas du cynisme.
Non, il n'y a pas de cynisme parce que François Fillon l'explique très mal. Il est maladroit, comme il a pu l'être souvent d'ailleurs en avançant ses différentes propositions. à quoi sert la possibilité de faire baisser le point ? C'est pas pour essayer d'entuber par derrière les retraités ou d'entuber les Français. C'est que si vous avez une énorme crise économique, que l'activité se réduit brutalement, le seul moyen que vous avez d'essayer de restaurer un peu d'équité entre les actifs qui, eux, peuvent être soumis à, par exemple, un chômage massif, ou alors au fait qu'il y aurait plus de création de richesse ou beaucoup de pauvreté chez les actifs, et eux, les retraités seraient parfaitement protégés de ça. Ça sert à ça. Donc, il l'a juste expliqué de manière totalement nulle, mais ça a un intérêt intellectuel, parce que cette question-là, vous ne pouvez pas l'ignorer. Bien sûr qu'il y a, en plus, dans la réalité, il y a des mécanismes de rappel politique qui font que vous n'allez pas baisser juste pour le plaisir, parce qu'il y a quand même des élections, et a priori, les retraités restent bien souvent les gens qui votent encore. Donc, c'est pas du cynisme, il y a un vrai intérêt à cette possibilité.
Et surtout, regardez ce qui se passe aujourd'hui sur les retraites complémentaires.
Il me semble que les propos de François Fillon, ils participent à une chose, c'est à remettre en question tout ce que va dire le gouvernement mercredi.
Oui,
c'est ça qui se passe en ce moment, parce que quoi que dise le gouvernement, et moi c'est ma synthèse, mon analyse, il va être inaudible. C'est-à-dire que toutes les concessions qu'il va pouvoir afficher, elles vont être tout le temps remises en question, en se disant mais qu'est-ce que ça cache derrière ? De toute façon, on n'a pas de simulateur. Quoi qu'il arrive, on veut faire des économies sur notre dos. Et ce genre de propos participe à ça, alors que comme vous le disiez, Dominique Seux, à Gercarco, je ne crois pas que le point ait beaucoup baissé depuis son existence. Donc c'est pas forcément des choses vraies.
Pardon, il y a aussi une forme de démagogie, parce que quand on dit suppression des régimes spéciaux, comme si on allait supprimer tous les régimes spéciaux,
justement,
on sait très bien que c'est pas le cas.
Oui, mais notamment
ceux des parlementaires.
On entend quand même aussi une autre petite musique depuis ce week-end, c'est une espèce de liste des spécificités à l'après-vert, c'est-à-dire qu'on n'a plus les régimes spéciaux, mais on a des métiers à risque, des métiers ou des cadeaux de bienvenue pour les enseignants qui vont y perdre. On commence à voir, mais peut-être que c'est la seule possibilité d'attaquer la réforme des retraites, c'est-à-dire de créer d'autres spécificités ou d'autres régimes spéciaux que ceux qui existent actuellement pour créer petit à petit, mais alors en combien de temps, un espèce de régime universel. Et juste une dernière chose, c'est le risque aussi du gouvernement, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va être cette réforme ? Oui, ils vont la faire, mais est-ce que ça va pas être une coquille vide, une réforme comme ils ont pu faire la loi asile et immigration ? C'est-à-dire, il y a tellement de contradictions, il y a tellement de concessions que finalement il n'y a pas grand-chose, ou alors ça sera... après nous le déluge, c'est-à-dire que ça viendra, alors ce sera pas la clause du grand-père, mais ce sera la clause du grand-frère, comme on entend parler, donc ça sera bien après le gouvernement qu'elle sera mise en place, et encore très partiellement.
Benjamin Amar.
Ah, cette affaire est délicieuse. Alors,
ça
m'amuse un peu parce que je comprends bien que certains sont un petit peu gênés aux entournures. Parce que ce que dit là François Fillon, c'est exactement ce que nous disons. Pourtant, on peut pas soupçonner François Fillon en 2016
on commence à soupçonner
d'avoir envie de dire la même chose que la CGT. Et en réalité, alors moi, je vais vous dire, cette vidéo, je la passe quand on fait des formations sur la réforme. Si je commence par cette vidéo, elle est délicieuse. Maintenant, je suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'abord, Emmanuel Macron, on l'a peut-être oublié, mais pendant la campagne et au début de sa présidence, il dit ouvertement qu'il s'inspire du modèle suédois. Là aussi, c'est pas la CGT qui fait de la ventriloquie, il le dit. Et je suis désolé de le dire, en Suède, en 2010, en 2011, en 2012, après la crise, la valeur du point, elle baisse. Et je veux dire, c'est Göran Persson là aussi, c'est pas Philippe Martinez, c'est le premier ministre suédois. Göran Persson qui dit, ouvrez les guillemets, nous avons le meilleur système de retraite au monde, à un détail près, il produit des pensions trop basses. Bon, n'en jetez plus, la coupe est pleine, mais je vais quand même encore la remplir. Je suis désolé, Dominique, l'histoire d'Agirc-Arrco, fallait au bout, le diable est dans les détails. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, par exemple? Le point Agirc-Arrco est augmenté de 0,6%. Ok, mais l'inflation était de 1,6%. Les quatre années précédentes, le point avait été gelé, alors que l'inflation, elle montait. Donc, tout ça fait que vous avez une baisse de la valeur relative. Donc, bien sûr, et alors ça, je vais vous dire, c'est qu'un aspect des choses. Parce que vous parliez des régimes spéciaux. Moi, là aussi, on écoute, c'est de l'aïkido. On écoute en permanence ce que dit le gouvernement, et on utilise contre lui ce qu'il dit. Si cette réforme, elle est si égalitaire, si Emmanuel Macron serait devenu par transsubstantiation la réincarnation de Lénine, alors je ne comprends pas pourquoi Christophe Castaner, la veille du 5 décembre, prend sa petite plume pour dire aux policiers, hey, « Eh les gars, hey, détendez-vous, ça vous concernera pas. » C'est pas pour vous, la réforme. Alors, si cette réforme, elle est si bonne, si elle est si égalitariste, si elle est digne de Robespierre et des communards, pourquoi est-ce qu'on prend ce genre de proposition? La réforme du grand-père, la clause du grand-père, mais c'est scélérat, ça. Et après, on dit que c'est la CGT qui défend des intérêts catégoriels. Vous pourriez, Jean-Sébastien Ferjou, rentrer chez vous ce soir, regarder vos gosses dans les yeux et leur dire, vous savez quoi? On va déboucher une bouteille de champagne, parce que la réforme dégueulasse, elle est pas pour moi. Par contre, vous en boirez pas du champagne, parce qu'elle sera pour vous. Mais on plaisante, on prend les gens pour des imbéciles. Et je vais vous dire, je répète ce que j'ai dit, la bataille de l'opinion, on n'a pas fini de la gagner. À la fin, le gouvernement, comme dit Raoul Wolfoni dans Les Tontons Flagueurs, on va l'exploser façon puzzle sur cette histoire.
Dominique, ce...
Alors, un point d'abord, vous avez raison sur Agir Carco, et d'ailleurs je l'ai moi-même mentionné, la valeur du point n'a pas baissé, mais le rendement du point Agir Carco lui a baissé parce que le taux d'appel, le taux de cotisation, on ne va pas rentrer dans la technique, non, il n'y a aucun doute là-dessus, on est d'accord. Néanmoins, j'entends bien ce que dit mon voisin de droite, mais il n'en reste pas moins que...
Vous êtes l'ami de François Fillon, vous êtes l'ami des Suédois et vous êtes de droite.
Démasqué.
C'est parfait.
Allez, absolument démasqué. Il n'en reste pas moins quand même que les cheminots RATP SNCF partent en retraite 7-8 ans avant les autres. Un comptable de la SNCF.
Il y a quand même une chose qu'on dit beaucoup, Dominique. On parle tout le temps des cheminots, mais c'est vrai que ce qu'on entend beaucoup dans la rue, c'est des gens qui disent, alors puisqu'on parle des régimes spéciaux, quid de celui des parlementaires, des hauts fonctionnaires, des sénateurs,
des anciens présidents,
après tout, eux aussi,
des régimes spéciaux. On est complètement d'accord là-dessus. Ça n'a aucun sens pour le gouvernement de se lancer sur une thématique de justice sociale. Et eux-mêmes disent que cette réforme-là n'est pas urgente. Donc à partir du moment où ils disent que cette réforme n'est pas urgente, puisque effectivement elle ne vise pas à assurer l'équilibre, donc c'est juste pour qu'elle soit plus efficiente, avec plus de justice. Mais personne ne l'entend. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, je ne vais certainement pas rentrer en buvant du champagne chez moi dans un cas ou dans l'autre. En revanche, vous reprochez, il me semble, à Jean-Paul Delevoye de marcher main dans les mains avec les assurances, mais c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, parce qu'à un moment, ceux qui en auront les moyens, dans la mesure où plus personne n'a confiance dans le système des retraites, parce que ça, vous pouvez le tourner dans tous les sens que vous voulez, toutes les enquêtes d'opinion montrent que les Français pensent qu'ils n'auront pas de retraite plus tard, et bien ceux qui ont les moyens, ils auront des retraites privées. Et ça, vous y aurez puissamment contribué.
Dominique,
c'est exactement ce qui se passe pour, au-delà, ce qui va se passer au-delà de 10 000 euros par mois brut, puisqu'il y a un taux de cotisation qui sera beaucoup plus bas, mais n'ouvrant droit à aucun droit de retraite, et donc les personnes à plus de 10 000 euros par mois vont aller vers des systèmes complémentaires privés.
Même à moins de 10 000 euros, parce que les gens passent pas.
Je pense que dans la question que se pose ces heures-ci le gouvernement, c'est qu'il poursuivait deux chevaux. La réforme par point et la réforme qui doit rapporter de l'argent. Je crois qu'il va être obligé d'en abandonner un des deux. La pente, pour l'instant, c'est de reporter un peu l'équilibre financier. C'est probablement ce qui va se passer. Mais il doit aussi se poser une question, c'est l'aile droite de son gouvernement qui lui incite à se poser cette question, c'est ne vaut-il mieux pas privilégier quand même le rétablissement des comptes plutôt qu'une réforme dite systémique, tabula rasa, on refait le monde, etc. Et je pense que c'est ça qui est en train d'être débattu ces heures-ci.
Émilie Zabassi.
Je suis assez d'accord avec cette analyse. Je pense qu'en tout cas, il faudrait mieux abandonner un objectif pour être plus compréhensible et plus convaincant. Mais même en abandonnant un objectif, moi j'ai l'impression qu'il n'arrivera pas à se faire comprendre. En plus, ils ont beaucoup de problèmes de communication quand même, parce qu'il faut beaucoup de pédagogie. Une fois qu'ils auront mis les mesures sur la table mercredi, il va falloir convaincre, il va falloir faire comprendre. Et c'est pas forcément quelque chose sur lequel ils sont très très forts, parce que souvent on a des discours très très différents d'un ministre à l'autre, et ça pose problème. Mais au-delà de ça, moi j'ai l'impression que ils ont laissé la grogne sociale monter, et on l'a bien vu là, et ça marche. Et puis les syndicats, hein, Benjamin, je pense vous avez envie de capitaliser sur ça. Je pense que vous n'allez pas lâcher le morceau.
On a envie de faire reculer la régression sociale.
Vous n'allez pas lâcher le morceau si vite. Et je pense que cette grogne sociale, elle va au-delà de la réforme des retraites.
Ça, c'est sûr.
C'est un mouvement social qui n'a plus de représentants politiques. Hein. La gauche n'est pas encore très réveillée là-dessus. Donc, il n'y a pas d'alternative politique. Donc, la seule expression, c'est dans la rue. Et cette expression-là,
Émilie,
elle est très forte.
De ne pas oublier que le premier syndicat de France est plutôt favorable au principe de la réforme.
Il est favorable au principe,
et il est très minoritaire dans l'opinion.
C'est le premier syndicat de France.
Oui, mais peut-être, mais il est très minoritaire.
Et ce que je veux dire par là, c'est que on voit bien que se joue la question de la première place pour les syndicats en France.
Il est encore en négociation. Hein, CFDT et UNSA sont fortement en négociation. On voit qu'ils sont, oui, en effet, proches de se mettre d'accord sur la date,
sur le principe.
Sur le principe de l'entrée en vigueur.
Ils sont furieux contre
Macron. Mais il y a quand même aussi la question des enseignants, par exemple. Je prendrais la question des enseignants qui seront fortement touchés par cette réforme. On voit bien que c'est des questions qui sont posées sur la plateforme numérique de contribution des Français. C'est une question qui revient tout le temps. Et c'est une question qui peut remporter l'opinion publique, parce que les gens sont sensibles, on a parlé tout à l'heure des enfants, sur ces professions-là qui donnent beaucoup pour les autres, et je pense que ça peut favoriser cette mobilisation sociale, en tout cas qu'elle tienne.
Alors, s'il y en a bien un qui n'est pas en grève, mais complètement hyperactif, c'est le rappeur américain IBN Cordae, après un duo avec Orelsan, nouvelle collaboration avec Anderson .Paak.
Y'all niggas gon' be fuckin' with me. I got two bad bitches gon' be rubbin' my feet. I got three young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing to me. Ooh, not one of y'all niggas gon' be fuckin' with me. I got two bad bitches gon' be rubbin' my feet. I got three young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing to me.
Okay, put your fucking hands up. This the fucking anthem. Smiling cause I'm young, rich, black, and I'm handsome. Not to mention wealthy. Ass on the healthy. Young millionaire, what the fuck can you tell me? Smell me, nigga. That's Chanel cologne. I'm in Europe with the tourists with no cell, your phone.
Like, ooh, sound like rich nigga problems. I hit a bad bitch with a fist full of condoms. In the randomness of risky menages, like get the head right, she can get what she want. If it spits, then flaunt it. My trip like a faucet. She told me she was pregnant. I ain't even take the motherfucking dick out my pocket yet.
The opposite, she want me to fly her, so I cop the jet. Must be thinking I'm a one way ticket on a runway. Dripping in my feng shui, sipping on a Sunday.
One of y'all niggas gonna be fucking with me. I got two bad bitches gonna be rubbing my feet. I got three young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing to me. Ooh, not one of y'all niggas gonna be fucking with me. I got two bad bitches gonna be rubbing my feet. I got three young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing to me.
I bought a Montclair coat for the times where it broke.
I'ma wear it in the summer on LeBron James boat.
Front row?
Duh, bro.
We don't sit on nosebleeds.
Ain't your pockets obese?
They won't fit in those seats.
Ain't we like a co-team?
Nigga Shaq and Kobe.
Like back in 03.
I was only like 6.
I was like 16.
But I can give a 16.
I can make a bitch scream.
That's a bit extreme.
I got a thick ball, bitch. I call her Miss Clean. My drip frosty like Halls and Listerine. And we are all-stars. You hardly 6 string.
Yeah, I had to ball hard to harvest these dreams.
Swear to yeah, me too.
No Harvey Weinstein. The coupe was lime green. My wrist was blinding.
We party in South Beach. Ferraris and blue cheese.
Fuck does that even
nigga,
mean?
Nigga, just let the hook sing. One of y'all niggas gonna be fucking with me. I got two bad bitches gonna be rubbing my feet. I got three young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing to me. Ooh, not one of y'all niggas gonna be fucking with me. I got two bad bitches gonna be rubbing my feet. I got three young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing to me.
RNP, c'est signé par IBN Cordae. J'ai l'impression de jouer aux chiffres et aux lettres. Programmation pas mieux de Jean-Baptiste Audibert.
Ils sont traumatisés par le mois de décembre depuis 95. On va leur faire vivre ça.
France Inter.
En 95, je me suis battu 3 semaines pour les retraites. Et aujourd'hui, bah, je suis prêt à repartir.
Pour la reconduction jusqu'à demain. Jusqu'à demain.
Noël, premier de l'an, on verra.
Moi, je suis prêt à passer les fêtes en grève, c'est pas un problème. Et on est nombreux à penser ça.
Le nouveau rendez-vous.
Ça dépend pas de nous, ça dépend du gouvernement.
Laurent Goumard.
C'est bizarre, j'ai l'impression d'être associé au gouvernement dans ce jingle. Le gouvernement, Laurent Goumard. Je vais dénoncer ma réalisatrice.
Posez-vous des questions. Posez-vous
Marion
des questions,
Levé. Enfin, on en parle avec nos invités. Camara, Jean-Baptiste, Laurent, Jean-Sébastien quoi. Ferjou, le directeur d'Atlantico. Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Échos. Émilie Zapelski, fondatrice de Émilie Conseil. Benjamin Hamard, qui est responsable de la CGT Val-de-Marne. Vous vouliez revenir pour reprendre la main, Christophe Boursier.
Bah oui, parce que la question aujourd'hui, c'est qu'on est un peu un tournant, puisque demain, il y a une journée d'action, hein, mardi. Nouvelle journée d'action, donc aussi manifestation, donc test de mobilisation. Et puis, mercredi, il y a le fameux discours d'Édouard Philippe dans lequel il va enfin expliquer, peut-être dessiner les contours de cette réforme.
Parce que tout va se calmer, ça va être formidable.
Pour l'instant, on pourrait dire que les manifestants luttent contre un fantôme, puisqu'on ne sait pas exactement quel sera le contenu de cette réforme. Est-ce qu'on n'est pas, Benjamin Hamard, en train d'aller vers une grève générale politique contre Macron ? Est-ce que c'est pas au fond un mouvement politique qui se dessine?
Alors, d'abord, un fantôme, non. Ou alors les fantômes d'Harry Potter, voyez, quand même, bien, qu'on peut bien reconnaître et qu'on peut bien cerner, quand même. Parce que, on a un document de 132 pages derrière, sur lequel on peut largement gloser, où on a quand même des éléments, très, très précis. Derrière, il est évident, enfin, la CGT l'a dit à plusieurs reprises, j'ai rien inventé, qu'Emmanuel Macron, est le président qui, depuis 1945, a le plus servi les intérêts du patronat. Moi, j'ai souvent dit, à côté Nicolas Sarkozy, c'est un joueur de division honneur, quoi. Hein. Aller aussi loin dans le fait de décliner les intérêts du patronat, c'est assez rare. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur la question de la capitalisation qu'évoquait Jean-Sébastien Ferjou. La CGT n'a jamais dit que le système à points proposé par Emmanuel Macron était autre chose qu'un système par répartition. Ça reste un système par répartition. Mais en plus, dans le droit fil des réformes précédentes, il aggrave, bien sûr, la fonte et la baisse des pensions, c'est ce que nous disons. Et dans ces cas-là, je suis désolé, mais je vous retourne l'argument, c'est pas nous. C'est bien évidemment les libéraux qui cassent le système de retraite, qui appliquent le vieil adage. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Et ainsi, on pousse les Français qui ont les moyens à aller vers la retraite par capitalisation, alors que les autres n'auront bien évidemment pas les moyens.
Cette réforme-là,
elle arrive comme l'apogée des réformes précédentes. On ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas. Il y a eu effectivement la casse du droit du travail dès l'automne 2017. Il y a eu la casse du statut de la fonction publique. Il y a eu la réforme de la SNCF. Il y a eu la flat tax qui limite la taxation du capital. Il y a
ce
eu
qui
la
a augmenté le produit de l'impôt en question.
Qui liquide l'ISF. Enfin, on a une liste longue comme le bras, effectivement, qui montre qu'Emmanuel Macron cristallise une colère sociale, mais à juste titre. À juste titre. Alors après, derrière, nous, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas des épiciers. On n'est pas là en train d'essayer
mais
de
capitaliser, vous voulez aller
jusqu'où ? Je ne sais trop quoi. Alors, Philippe Martinez l'a dit très bien. Et donc moi, j'ai pas une feuille de papier à cigarette avec les propos du secrétaire général de la CGT. On veut aller jusqu'au retrait. Cette réforme scélérate, elle a une place, un environnement naturel. C'est les poubelles de l'histoire sociale.
Voilà. Et pour autant, le et premier syndicat de France, la CFDT n'est pas sur la même longueur d'onde du tout.
Moi, je veux bien. Vous savez, j'en fais un paquet des émissions, Laurent Goumard. Je suis ébahi, mais des lauriers qu'on tresse à la CFDT en permanence, c'est incroyable. C'est le meilleur élève du syndicalisme de la galaxie. Je veux bien, mais vous le voulez ou non? La CFDT aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, ça vous plaît, ça vous plaît pas, elle est ultra minoritaire dans l'opinion aujourd'hui.
Bah écoutez, elle est quand
attendez, c'est quand même le premier syndicat. Vous avez vu d'ailleurs, je dis ça, vous avez vu, le chant grégorien immédiatement qui arrive.
Mais
les
non mais Benjamin, on peut vous répondre, déjà on n'a pas tous nécessairement le même avis.
Attends,
mais non,
ah bah là, visiblement,
si vous regardez,
Jean-Sébastien
si vous regardez.
C'était moi qui avais la parole là quand même.
Oui, vous regardez,
vous mais je veux dire, juste une chose.
On s'en fiche, moi aussi je peux bloquer un studio.
Moi je peux juste finir ma phrase quand même. Avant que Jean-Sébastien Ferjou, j'aimerais juste finir ma phrase, que c'est moi qui avais la parole, dire, je suis désolé, vous le voulez pas, aujourd'hui, la CFDT, elle est pour la réforme par points, et 70% des Français, eux, sont contre. D'accord. C'est comme ça.
En tout cas, on entend quelque chose de Jean-Sébastien Ferjou. C'est l'hommage à Nicolas Sarkozy d'un responsable.
Ah, mais non, mais écoutez,
non, mais Benjamin.
Mais pas écouté.
La réalité de l'opinion est beaucoup plus complexe que celle-là. C'est-à-dire que les Français soutiennent le mouvement, mais pensent qu'il faut une réforme des retraites. Donc ne croyez pas que vous avez gagné la victoire, la bataille idéologique, parce que vous ne l'avez pas gagnée. Quant à dire qu'il s'agirait d'une politique ultralibérale ou d'une réforme libérale, j'aimerais bien qu'on m'explique en quoi un système qui vise à universaliser, c'est-à-dire on est très loin de la liberté de choix de chacun des acteurs, et à en parachever l'étatisation, plutôt que d'avoir
parce
des
que
partenaires
c'est un système
sociaux.
Contributif, voilà pourquoi.
Mais oui, mais enfin, on n'est pas du tout dans une logique libérale, on est dans la logique de ce qu'est Emmanuel Macron,
système contributif.
C'est-à-dire le produit du cercle La Raison, c'est une réforme de technocrate, c'est comme, et les technocrates oublient toujours que la vie,
libéral,
elle est en 3D. Ils regardent la vie avec une logique de comptabilité, une logique budgétaire, et c'est comme si vous regardez un plan en 2D, vous savez, puis après vous regardez Google Earth en 3D, ils oublient la logique émotion, et c'est ce qui fait que je pense que ce gouvernement est dans une mauvaise posture parce qu'il n'y a que deux mauvaises issues. Il n'y a que deux mauvaises issues pour lui, parce que soit effectivement les Français sont persuadés, vous écoutent et pensent qu'il n'y a pas de justice sociale et Emmanuel Macron perd, soit vous entretenez une espèce de climat de guerre civile parce que les gens auront effectivement été convaincus.
C'est pas du syndicalisme, Jean-Sébastien.
Je pense que le faire du syndicalisme, ceux qui travaillent jusqu'à 67 ans avec des pensions minimales et des gens extrêmement
protégés. Je suis désolé de pas toujours être d'accord avec le patronat. C'est votre conception du syndicalisme.
Je pense qu'Emmanuel Macron, en effet, cristallise énormément de colère. Et vous l'avez souligné, retrait de l'ISF, l'APL, les logements, l'allocation logement qui a augmenté. Donc voilà, ça c'est sûr.
La loi travail.
Mais je pense que ça dépasse ce cadre-là et que la colère qui est en ce moment dans la rue, elle elle va au-delà de ça. Je ne sais pas si c'est une remise en question du capitalisme, de la mondialisation. Les gens n'y trouvent pas leur compte. Et c'est vrai que les gilets jaunes ont un petit peu labouré le terrain en disant « Nous, on n'est pas contents. Les métropoles, il n'y a pas que ça. Nous, classe moyenne, on ne s'en sort pas. » Alors peut-être qu'on peut se dire que le niveau de vie augmente, mais les gens n'y trouvent plus leur compte.
Exactement.
Et la question, c'est aussi de savoir si le modèle social et le modèle de protection sociale, d'assurance, chômage, tout ce qu'on a choisi et tout ce qui fait partie de l'ADN français, est-ce qu'on le maintient et comment on le fait évoluer pour le maintenir? Ou alors est-ce qu'on copie des pays comme l'Allemagne où il y a de retraités qui sont de plus en plus pauvres, ou comme la Suède où ça fonctionne pas si bien que ce qu'on veut dire?
Exactement.
Ou est-ce qu'on a envie d'être nous, avec nos particularités sociales, d'accepter peut-être à la marge de faire évoluer le système de redistribution, de protection, mais que ça soit favorable à une justice sociale un petit peu plus équilibrée?
Voilà une réunion qui me plaît beaucoup plus.
Ça, on dirait du Molière. On dirait que c'est quand très... vous dites exactement comme ça, on dirait.
Il y a quand même, si je puis me permettre,
dans le projet du gouvernement, je vais le défendre
une seconde, vous voyez, comme je suis, il y a très girouette, il y a quand même la retraite minimum à 1000 euros,
ce
qui est une mesure sociale.
Si vous en parlez, j'aimerais bien, moi.
Alors. Non. Dominique Seux.
Mais moi, ensuite, si m'amuse, j'ai lu une interview de Philippe Martinez dans le journal du dimanche hier, et la dernière phrase de cette interview, c'était nous avons le meilleur système de retraite au monde. Et j'ai marqué un instant de réflexion parce que je me suis dit, c'est quand même curieux parce que toutes les réformes qui ont été faites depuis 20 ans ont été critiquées par la CGT qui nous a dit c'est de la casse sociale. Donc après 20 ans de caisse sociale, comment arrive-t-on au meilleur système, meilleur du monde? J'ai un petit peu de mal. Sur la capitalisation, si toutes les réformes précédentes avaient été le chemin au néolibéralisme, à la capitalisation, aujourd'hui on verrait des systèmes de capitalisation qui sont en pleine forme.
Aujourd'hui on a la loi Pacte, Attendez,
aujourd'hui en France... Les Français utilisent-ils les systèmes de capitalisation pour leur retraite? La réponse est non.
La loi Pacte a pour but...
Parler toujours de l'avenir, mais tout ce qui a été dit depuis 20 ans était donc faux.
Alors, vous allez peut-être répondre, mais d'abord sur cette retraite donc à 1000 euros. Alors, c'est scandaleux.
Alors, écoutez, non, c'est pas une question, c'est que, en fait, je vais vous dire, quelle est l'histoire? Alors, effectivement, pour les paysans qui ont une retraite à 800 euros, eux, ils vont avoir une retraite à 1000 euros. Juste, on rappelle, on va quand même pas non plus sonner le tocsin, 1000 euros, c'est en dessous du seuil de pauvreté. Bon. Ensuite, l'histoire, c'est qu'il va y en avoir d'autres qui vont être à 1000 euros. C'est ceux qui avaient des retraites à 1300 euros, ben nous on a fait le calcul, effectivement ils pourraient descendre jusqu'à 900, coup de bol, il y aura un filet à 1000 euros. Ça va vous faire un paquet de gens avec une retraite à 1000 euros. Et là, si vous voulez, c'est une conception de l'égalité qui est étonnante. Ça s'appelle le nivellement par le bas. Maintenant, sur la retraite par capitalisation, alors là, excusez-moi, Dominique, Philippe Martinez, il dit deux choses. Il dit, nous avons le meilleur système de retraite au monde, et il a raison, parce que, par exemple, le taux de pauvreté chez les retraités, c'est en France qu'il est le plus bas parmi les pays de l'OCDE. Donc c'est vrai. Maintenant, ce que dit Philippe Martinez, c'est qu'au Royaume, et ce que nous disons à la CGT, c'est qu'in fine, au Royaume des aveugles, les banques sont rois. Parce que, effectivement, notre système, il était beaucoup plus...
Il était beaucoup plus solidaire au départ,
et les différentes réformes, elles l'ont dégradé, elles l'ont démantelé, mais à côté, c'est tellement pire... qui reste encore effectivement bien meilleur. Et c'est le taux de pauvreté. C'est ni vous ni moi qui en décidez. Oui. C'est le taux de pauvreté. En Suède, le taux de pauvreté, il est 17% chez les retraités.
Mais quand Édouard
Philippe... Les faits sont têtus, disait-il.
Quand Édouard Philippe dit par exemple que si on ne le fait pas maintenant, ça sera fait par d'autres, beaucoup plus brutalement plus tard.
Alors ça s'appelle alimenter une anxiété. Tout simplement. Ce gouvernement, il joue en permanence le discours de l'anxiété, le discours anxiogène. Nous, encore une fois, on est sur des choses précises. Quand on attaque cette réforme, c'est avec des choses concrètes. Je vous les ai donné, les exemples. Et quand on avance sur nos solutions, c'est avec des choses concrètes. C'est pas avec des élucubrations pour faire peur aux gens.
Dominique Seux.
La France est le pays...
Et ce sera le mot de la fin.
C'est ennuyeux, ça. J'ai un doute que ce soit... Non, la France est le pays où la durée passée après avoir travaillé est la plus longue de tous les pays développés.
Et c'est très bien.
Alors, c'est très bien, manifestement, ça pose des problèmes financiers.
Vous savez dire, sur les questions financières, là aussi, c'est dommage, on n'a pas pu l'aborder. Oui, il y a 150 milliards dans les caisses de réserve, des caisses de retraite, dans les fonds de réserve. Donc, faut arrêter aussi avec cette idée que les caisses sont vides. Il y a plein de pognon dans les caisses de retraite.
Évidemment, vous parliez de la pauvreté chez les retraités, on peut le regarder que par cet angle-là. On peut regarder aussi la pauvreté chez les jeunes, parce que ça a un lien.
Donc, on monte les jeunes contre les retraités.
On les monte pas. C'est un équilibre global.
Oui, bien sûr.
Merci à vous tous. On va pas clore le débat, on va encore parler, non pas retraite, mais musique, justement, avec la jeunesse que vous appelez de vos voeux, Jean-Sébastien Ferjou. All right, let's have a little
rumble at the Ritz tonight. Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Pas mal ce débat.
Ah oui,
ça faisait ça l'air près de deux semaines qu'on n'en avait pas.
Animé, ça vous a fait du bien de prendre le match
un peu. Un lifting.
Bah ouais, pareil, tout à pareil, complètement. Alors, on y va pour la musique ?
On y va pour la musique, Marion Guilbeault.
Alors, on assiste en ce moment vraiment à une nouvelle vague de voix féminines. Alors, la précédente, on l'a vécue, Laurent, c'était celle de Juliette Armanet, de Fishback, de Clara Luciani, de Cléa Vincent. Une vague qui jouait avec la pop et la chanson. Et bien, celle d'aujourd'hui, elle s'empare des codes, des sons du rap, du R&B, de la trap, pour écrire ce qu'on appelle la pop urbaine. Ces nouvelles voix, elles s'appellent Loose and the Yakuza, Elia, Lolo Zouai, Johanna ou encore Sally. C'est notre invitée ce soir. C'est des jeunes femmes souvent sensibles aux questions de féminisme, de genre, d'écologie, de retraite, je ne sais pas, c'est un peu tôt pour y penser pour elle. Alors bien sûr, chacune...
Ne pense jamais assez tôt, vous savez.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors chacune a sa voix, son originalité, son histoire, et celle de Sally est double, avec une naissance à Djibouti et une enfance dans la campagne du Maine-et-Loire. Sally, c'est une vie dominée par le chant, la chorale avec sa maman, des reprises de Georgia Smith, de Lana Del Rey, de la musique, partout, tout le temps, jusqu'à la rencontre avec Lord Esperanza, ce jeune rappeur à l'esprit éclairé qui va l'encourager à exprimer non seulement sa personnalité, mais même voir sa bipolarité. Je vous ai dit, elle est double. Sally a cette particularité, comme son aîné l'homme pâle, d'avoir l'audace de chanter ses peurs, de chanter la dépression, la folie, les déceptions amoureuses, la peur de l'engagement, la vie, quoi. Alors elle est avec nous ce soir, avec ses beaux cheveux bleus, enfin une partie bleue, une partie noire, ses ongles vert fluo aussi longs que son vibrato. Mais avant de chanter, une petite question pour vous, Sally, au sujet de ce pseudo, parce que vous avez quand même le plus joli prénom du monde. Donc, pourquoi avoir choisi Sally ?
C'est tout simplement via un dessin animé du nom de Sally Bollywood, franco-australien, qui passait dans les années 2000. Et quand j'étais petite, on me disait beaucoup que j'y ressemblais. C'est l'histoire d'une petite détective qui veut toujours sauver les gens. Et on me disait un peu, ah, tu lui ressembles non pas que par le physique, mais aussi par cette ambition de vouloir sauver tout le monde.
Bon, écoute, moi je trouve que c'est parfait.
C'était quoi le prénom le plus beau du monde ?
À chercher, deviner.
Pour moi c'est Laurent, mais bon.
Et pour moi, c'est...
Je la vois pas, et ça fait comme ça.
Et pour moi ?
Oh, ça fait Marion !
Mais
oh,
oui, mais voilà. Bien sûr. Voilà, on vous écoute, Sally, c'est à vous.
Merci.
Je fais l'amour, j'attends le jour où tu viendras frapper à ma porte. Je fais l'amour.
Merci.
Elle s'appelle Sally J. Fella. C'est extrait de son premier EP Pillard. Ça veut dire amour en hindi. C'est sorti au mois de novembre. Elle est accompagnée ce soir par David Spinelli au piano, Loïs Mercier au platine. Elle sera en concert, Sally, à Nantes. Ce sera le 21 janvier à Angers, le 7 mars. Et le live de Sally a été filmé. Il sera retrouvé sur notre site très prochainement. Et la prise de son ce soir était assurée par les toujours actifs Fabrice Desmaz et Julien Dumont. Merci beaucoup. Et merci à vous, Sally, d'être passée par le Nouveau Rendez-vous.
Et merci à tous nos invités. Merci Jean-Sébastien Ferjou, Dominique Seux, Émilie Zapalski, Benjamin Amar. Merci, je rappelle, Les Combats du Clair-Obscur que vous avez signé, c'est aux éditions Un Point C'est Tout. Ça, c'était le NRV, première partie. On va se retrouver dans 15 minutes pour le NRV La Suite France Inter Plus. Mais demain, dans le NRV, quoi qu'est-ce ?
Ici, on est au Bosquet, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler.
On entendra parler demain. Gros plan sur les banlieues, dans les médias, au cinéma. On vous attend sur le sujet. Vous pouvez laisser des messages, des questions, des analyses sur notre répondeur au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. Demain en live, Marion.
Contre-programmation, bien sûr, avec la folk bucolique de Pierce Faccini.
Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, programmation, préparation. Virginie Rouzic, Clémence Diligent, Christophe Bourseiller.
Rendez-vous.